France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et tous. Au sommaire de ce journal, ces incidents qui ont émaillé le concert donné hier soir à la Philharmonie de Paris par l'Orchestre Philharmonique d'Israël, la Cité de la Musique a porté plainte et 4 personnes ont été placées en garde à vue. Dans la matinée, nous évoquerons la réponse de la présidente du Louvre à la Cour des comptes qui hier a vivement critiqué sa gestion de la sécurité 3 semaines après le vol des bijoux de la couronne. Dans l'actualité internationale, le futur déploiement d'une force internationale à Gaza a retenu notre attention, tout comme le mécanisme de la colossale rémunération accordée à Elon Musk par les actionnaires de Tesla, près de 1 000 milliards de dollars. Enfin, l'invité du journal sera Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine. Il sera question avec lui de la visite à la Maison-Blanche du meilleur ami européen de Donald Trump, Viktor Orban, soucieux des sanctions américaines en matière d'importation de pétrole russe. La violence n'est pas un débat, cette phrase issue d'un communiqué rédigé par la direction de la Philharmonie de Paris caractérise ce qui s'est passé hier soir lors d'un concert donné par l'Orchestre Philharmonique d'Israël à 3 reprises. Des spectateurs ont perturbé la représentation, usage de fumigène, affrontement. Bonjour Louis-Valentin Lopez.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
De graves incidents d'excitent la direction de l'établissement qui a d'ailleurs porté plainte.
Sur des vidéos amateurs, on voit un épais nuage de fumée s'élever dans la salle Pierre Boulez de la Philharmonie. Des spectateurs font usage de fumigène pour interrompre le concert. D'autres s'interposent. Des affrontements ont eu lieu, précise l'établissement. Les spectateurs ont été rapidement interpellés, indique le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. 4 personnes placées en garde à vue. Depuis ce matin, les réactions s'enchaînent. Politique notamment, la violence n'a pas sa place dans une salle de concert, écrit la ministre de la Culture, Rachida Dati. Réaction aussi de Marine Le Pen, qui dénonce des actes intolérables.
Et ces perturbations surviennent après plusieurs jours de tensions autour de ce concert.
Un communiqué de la CGT avait été publié il y a une semaine. Il n'appelait pas à l'annulation, mais à contextualiser sur scène la représentation avant le concert. Philippe Gauthier est le secrétaire général du SNAM CGT qui regroupe des musiciens et musiciennes. Il réagit aux incidents survenus hier soir.
Ça aurait pu mettre en danger les spectateurs, les salariés, les artistes. Bon, bah, on ne peut pas être pour ça. Ce concert était très particulier. L'Orchestre Philharmonique d'Israël, ses responsables se sont déjà exprimés pour dire qu'il représentait l'État israélien, et j'ajouterai que le fait que l'hymne israélien ait été joué lors de ce concert, voilà, on se demande est-ce que la Philharmonie de Paris, c'est vraiment le lieu de manifestation politique de la sorte. La Philharmonie de Paris ne reçoit pas les orchestres officiels russes, qui plus est avec la situation de guerre en Ukraine.
Et dès le 14 octobre, une lettre ouverte appelait à annuler la venue de l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Elle avait été signée par de nombreux artistes.
Louis-Valentin, la polémique, il faut le dire, avait débuté en Belgique.
Et c'était au mois de septembre. Le festival de Gand avait déprogrammé la venue de Lahav Chani, le directeur musical du Philharmonique d'Israël. Déjà, l'annulation avait suscité l'indignation. Jusqu'en Allemagne, le ministre de la Culture l'avait qualifié de « honte pour l'Europe ». Lahav Chani, le chef d'orchestre israélien, avait lui réagi quelques jours après. Il regrettait avoir été involontairement pris dans une tempête médiatique inattendue, une tempête ravivée hier soir.
Merci à vous, Louis-Valentin Lopez. Une autre prestigieuse institution culturelle française dans la difficulté, mais d'une toute autre nature. Le Louvre a vu sa gestion étriée par la Cour des comptes 19 jours après le vol des bijoux de la couronne. Hier, son premier président, Pierre Moscovici, soulignait, martelait, devrait-on dire, que le Louvre a privilégié, je cite, « des opérations visibles et attractives au détriment de la sécurité ». Bonjour Emma Vogli-Maxi.
Bonjour.
Emma, la présidente du Louvre, répond ce matin à la Cour des comptes.
Oui, Laurence Descartes insiste. Depuis qu'elle a été nommée en 2021, le Louvre n'a jamais mis de côté les questions de sécurité.
Nous avons assuré l'ensemble de nos missions. Et j'ai pris toute la mesure de cette question de la sécurité, puisque j'ai souhaité que, dès 2022, nous travaillions un schéma directeur de sécurité en le renforçant. Donc c'est un schéma qui se lance, et dans le cadre d'un grand projet de rénovation.
La présidente du musée, qui répondait ce matin à nos confrères de France Info, reconnaît quand même des manquements, notamment sur les caméras de surveillance. La Cour des comptes a révélé que dans certaines ailes, seule une salle sur quatre en est pourvue. Un problème que Laurence Descartes assure avoir pris à bras le corps.
J'ai moi-même, d'ailleurs, dans les deux, trois dernières années, pris sur les budgets de fonctionnement pour augmenter la couverture. C'est plus de 134 caméras vidéo numériques qui ont été posées entre 2023 et 2025.
Preuve, selon elle, qu'elle n'a ni oublié la sécurité, ni consacré tout le budget du musée à l'acquisition de nouvelles œuvres, même si le musée en a acheté plus de 1300 en 6 ans.
Les acquisitions font partie des missions statutaires du musée du Louvre. C'est dans notre décret statutaire, dans ma lettre de mission, fixée par le ministère de la Culture en 2022, faisait partie de mes priorités. J'ai appliqué ces priorités parce que je pense qu'il est très important et je pense que les Français sont très attachés à l'enrichissement de leur patrimoine.
Celle dont la démission a été rejetée appliquera tout de même les conseils de la Cour des comptes. Elle assure que des changements sont en cours pour que le budget accordé à l'acquisition de nouvelles œuvres soit diminué.
Merci Emma. C'était en 2020, le 21 novembre. Michel Zecler était interpellé devant chez lui pour non-port du masque en pleine période de regain de Covid et suspicion de consommation de cannabis. Un passage à tabac dans son studio d'enregistrement, des faits filmés par une caméra de vidéosurveillance dont les images ont été révélées sur le site Loopsider pour devenir virales. Interpellation violente, 29 coups en quelques 4 minutes, occasionnant une incapacité totale de travail de 45 jours. Usage disproportionné de la force, acharnement injustifié pour la défenseure des droits. L'autorité administrative indépendante a également établi que des propos racistes ont été tenus par les policiers, ce qui a été écarté par les juges d'instruction ayant ordonné en juin dernier un procès devant une cour criminelle pour les 4 policiers en cause. La défenseure des droits, Claire Hédon.
Les faits dont a été victime Michel Zecler sont extrêmement graves, hein, à la fois pour la victime, mais aussi pour l'image de la police et la confiance qu'elle doit inspirer aux citoyens. Et en disant ça, je ne porte pas une critique sur l'ensemble du travail de la police, hein, mais mettre en évidence des manquements déontologiques quand ils sont établis, c'est à la fois le rôle de mon institution, c'est faire aussi honneur à tous les policiers qui font leur travail dans le respect des valeurs républicaines. Ce qui est aussi frappant dans cette affaire, c'est que le procès-verbal d'interpellation de Michel Zecler établi par les fonctionnaires de police ne rend pas compte du déroulement des faits tel qu'il a pu être établi grâce aux images des caméras de vidéosurveillance qui étaient placées dans le studio d'enregistrement. Et c'est ça qui a permis notamment d'écarter toute violence de la part de Michel Zecler et en dépit des déclarations des fonctionnaires de police qui ont déformé la réalité. Et ce que je demande, c'est que face à une situation comme celle-là, c'est absolument nécessaire qu'il y ait une réponse disciplinaire très clair de la part du ministère de l'Intérieur et rapide.
La défenseure des droits, Claire Hédon, avec Jeanne Serrin.
Après son passage au Brésil, Emmanuel Macron fait un détour par le Mexique. Il rencontrera aujourd'hui pour une réunion privée la présidente Claudia Sheinbaum.
Et il sera question de la relation bilatérale, de l'accord économique entre le Mexique, l'Europe qui doit se renouveler en 2026, ainsi que du patrimoine, puisque le Mexique réclame 2 codex de livres peints préhispaniques à la France. C'est la première fois que le président Emmanuel Macron se rend dans le pays. C'est aussi la première fois qu'un chef d'État européen réalise une visite officielle au Mexique depuis l'élection de la première présidente, la première femme presidenta du pays, avec un A comme elle aime qu'on l'appelle. Claudia Sheinbaum est ultra populaire, il faut le savoir, au Mexique, créditée entre 70 et 80% d'opinion favorable à chaque sondage, limite désobligeant pour son visiteur du jour. Gwendoline Duval.
Tous les jours, la présidente mexicaine donne une conférence de presse et répond aux questions des journalistes. Elle parle de sécurité et d'éducation, ça se déroule par thème. Itza travaille pour une chaîne de télé mexicaine. C'est la source de toutes les informations nécessaires, ou plutôt les informations qu'elle veut diffuser. C'est une forme très intelligente de faire l'agenda et de déterminer de ce dont on va parler. Claudia Sheinbaum s'inscrit dans le même mouvement réformateur que son prédécesseur et le surpasse aujourd'hui en popularité. Alejandra Martinez, politologue.
Elle imprime vraiment sa manière de gouverner sur certains sujets, tandis que sur les autres, elle attend le bon moment pour se démarquer totalement de López Obrador.
Emilio, qui habite Mexico, apprécie les résultats de la présidente, auparavant maire de la capitale.
J'aime bien le fait que ce soit une scientifique, qu'elle ne se soit pas laissée prendre dans les batailles de chiens et chats entre politiques. On la sent proche du peuple et je dirais que c'est ça le secret de sa popularité. Peut-être que ça aiderait M. Macron à descendre un peu de son piédestal pour voir les gens depuis la rue.
Un projet de résolution américaine a été présenté aux pays partenaires du plan de paix pour Gaza. Elle doit être soumise au Conseil de sécurité de l'ONU, notamment pour déployer une force de paix internationale qui devrait être opérationnelle très bientôt, d'après le président américain. Les précisions d'Étienne Menin.
D'après le projet de résolution présenté par les Américains, cette force internationale serait placée sous l'égide du tout nouveau Comité pour la paix, avec un droit de regard de l'Égypte et d'Israël sur les pays participants. Elle aurait pour mission de gérer le processus de démilitarisation avec le désarmement des groupes et une destruction des infrastructures militaires restantes. La force internationale devrait aussi assurer la sécurité des frontières et soutenir les forces de police palestiniennes. La résolution prévoit un déploiement jusqu'au 31 décembre 2027, avec une reconduction possible. L'Égypte, la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Indonésie font partie des premiers pays candidats. Mais cette résolution reste assez générale. Elle entérine le plan Trump, qui est jugé trop pro-israélien et pas assez clair vis-à-vis de la solution à deux États par les pays arabes. La phase de négociation avant le vote du Conseil de sécurité de l'ONU pourrait donc prendre du temps.
Étienne Menin, des explosions retentissent ce matin près de la capitale soudanaise Khartoum, tenue par l'armée, après l'annonce par les paramilitaires de leur accord pour une trêve humanitaire, après la prise de la ville d'El Fasher dans l'ouest du Soudan le 26 octobre. Les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée régulière depuis avril 2023 semblent diriger leur offensive vers la région du Kordofan dans le centre du pays et donc Khartoum plus à l'est. Des civils ont été tués chez eux en représailles des manifestations d'opposants au pouvoir réprimées dans le sang fin octobre en Tanzanie, selon des ONG qui ont condamné les violations généralisées des droits de l'homme avant, pendant et après les élections du 29 octobre. Le principal parti d'opposition, Chadema, a avancé le chiffre d'au moins 800 morts. Des sources diplomatiques et sécuritaires ont corroboré l'idée que des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées en marge de ce scrutin.
Ce n'est pas le titre du nouveau western produit par la tech américaine.
Et pourtant, c'est à s'y méprendre, 1000 milliards de dollars, enfin pas tout à fait, 878 milliards de dollars sur 10 ans. C'est la somme à laquelle Elon Musk peut prétendre après le feu vert de l'Assemblée générale des actionnaires de Tesla, réunie hier à Austin, au Texas. Bonjour Myriam Rochemassarin.
Bonjour.
Il faut avoir à l'esprit que cette somme colossale ne va pas atterrir dans la poche d'Elon Musk d'un coup un seul.
Avant d'atteindre cette rémunération qui ferait de lui le premier trillionnaire de l'histoire, Elon Musk a 10 ans pour franchir des étapes clés. Il y en a 12. À chaque étape réussie, il ajoutera de nouvelles actions à son portefeuille. Les objectifs sont loin d'être faciles à atteindre. D'ici 2035, le patron de Tesla devra avoir vendu au moins 20 millions de véhicules électriques, soit près de deux fois plus qu'aujourd'hui. Mais Tesla, ce n'est pas que des voitures, c'est également de la robotique et un logiciel d'intelligence artificielle. Parmi les objectifs donnés au PDG, il y a donc la mise sur le marché d'un million de taxis-robots, la vente d'un million de robots humanoïdes, les Optimus, la nouvelle obsession d'Elon Musk, et celle de 10 millions de logiciels de conduite sans chauffeur qui n'existent pour l'instant qu'aux États-Unis.
Ajoutons qu'en 2035, Elon Musk devra également quintupler la valeur boursière de Tesla.
Oui, et l'entreprise est aujourd'hui bien en dessous des grands noms de la tech américaine. Microsoft et Apple valent deux fois plus que Tesla en bourse. Pourtant, leurs dirigeants, parmi les mieux payés du secteur, ont touché moins de 80 millions de dollars l'année dernière. Si Musk remplit ses objectifs, il détiendra alors un quart des actions de Tesla, un appât pour motiver le PDG à rester à la tête de l'entreprise, selon les actionnaires. Ajoutons que l'an dernier, le plan de rémunération de Musk voté par Tesla a été annulé par un juge fédéral.
Merci Myriam Rochemassarin. Il est 12h et presque 44 minutes, vous écoutez Journal de France Culture. La Hongrie peut-elle se passer du pétrole russe? Absolument pas, selon son Premier ministre Viktor Orban. Viktor Orban, le meilleur ami européen de Donald Trump, franchira une fois encore aujourd'hui la porte de la Maison-Blanche. avec l'ambition d'obtenir une faveur de la part de son hôte. En effet, Donald Trump insiste pour que tous les membres de l'Union européenne et de l'OTAN cessent ses importations de pétrole russe. Mais Viktor Orban, à 6 mois d'élections législatives cruciales, craint une explosion des prix et des pénuries. Comme convenu, nous sommes en ligne avec Philippe Salmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Viktor Orban sera donc reçu, comme on vient de le dire aujourd'hui, par Donald Trump après avoir affirmé que son pays chercherait à contourner les sanctions américaines voulues par le président américain contre les deux plus grands producteurs russes de pétrole, Rosneft et Lukoil. Pour commencer, Philippe Salmin, pouvez-vous s'il vous plaît nous rappeler la nature des sanctions américaines et nous expliquer pourquoi elles concernent des pays tiers, parmi lesquels la Hongrie? C'était d'ailleurs, sauf erreur, pas le pays le plus touché.
Non, les pays les plus touchés sont incontestablement la Chine et l'Inde, qui sont les principaux importateurs aujourd'hui de pétrole russe. Il est exact que l'Union européenne continue à importer un peu de pétrole russe, pour l'essentiel d'ailleurs, pour la Hongrie et la Slovaquie. Orban, ayant utilisé de son pouvoir de nuisance à l'intérieur de l'Union européenne pour obtenir le droit de continuer et même, je dirais, d'augmenter ses importations de pétrole russe, puisque à la fin des années 2010, la Hongrie se fournissait aux alentours de 68% en pétrole russe, et en 2024, début 2025, on était même monté à 92%. Donc la Hongrie et la Slovaquie se nourrissent intégralement, pratiquement aujourd'hui, en pétrole russe, en utilisant finalement la faiblesse des institutions européennes et, comme je le disais, le pouvoir de nuisance qui peut être celui d'Orban sur bien d'autres dossiers.
Mais Philippe Salmin, cette situation s'explique-t-elle, selon vous, d'abord par un critère lié aux infrastructures d'approvisionnement en pétrole et en gaz, ou faut-il avant tout y voir le signe de la mauvaise volonté politique pour se défaire de cette dépendance?
Alors, il est exact que la Hongrie, la Slovaquie, comme au fond une bonne partie de l'Europe de l'Est, a hérité des systèmes d'approvisionnement de l'époque soviétique, et notamment d'un oléoduc qui s'appelle Droujba.
Amitié en russe.
L'amitié entre les peuples, oui, ça a quelque chose d'assez ironique. Oléoduc qui traverse l'Ukraine, il faut bien le rappeler, et qui notamment approvisionnait et continue à approvisionner la Hongrie, la Slovaquie, il approvisionnait même la République tchèque qui s'en est largement détachée. Cela permet aux raffineurs hongrois largement liés à l'État qui est la société MOL, la plus importante société hongroise, bien d'acheter, on peut l'imaginer, du pétrole un petit peu moins cher. Elle contrôle à la fois le raffinage en Hongrie et en Slovaquie, elle possède la raffinerie de Bratislava, et donc ça permet, soyons honnêtes, très probablement à un certain nombre d'intermédiaires, peut-être liés d'ailleurs au pouvoir en place, d'améliorer leurs revenus. Sachant que, par ailleurs, c'est en Hongrie, le prix du carburant est un des plus élevés d'Europe.
C'est ce que craint Viktor Orban à l'approche des élections, Philippe Salmin.
Oui, mais là, il exagère un peu. Ah. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel du pétrole russe, alors, il ne passe pas par Rosneft et Lukoil.
C'est la question que j'allais vous poser. Quelles options s'offrent à lui, je veux dire, s'il veut contourner ces sanctions américaines? Quelles options en main?
Ah, il n'en a pas beaucoup quand même. Hein. Il n'en a pas beaucoup parce que de ce côté-là, les Américains ne plaisantent pas. Même s'il ne passe pas par Rosneft et Lukoil, l'essentiel passe par une société apparemment basée en Suisse, mais aussi à Dubaï et à Chypre, dont le contrôle serait assuré par Gennady Timchenko, qui était un des oligarques les plus proches de Vladimir Poutine. Donc on peut imaginer qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires qui gagnent relativement bien leur vie là-dessus, sachant que si jamais Orban se soumettait au diktat de Trump, et pour une fois Trump n'a pas totalement tort, il y a quand même une autre solution qui serait d'utiliser un autre oléoduc qui lui passe par l'Adriatique, s'appelle Adria, et qui part de Croatie pour arriver en Hongrie. Donc il y a un plan B possible, mais ce plan B est très probablement, financièrement, beaucoup moins intéressant.
D'un tout dernier mot, et merci d'avance d'être concis, Monsieur Chalmin, un peu plus de deux semaines après qu'elles aient été décidées par les États-Unis, que sait-on de l'efficacité des sanctions américaines sur les exportations de pétrole russe ?
C'est encore un peu tôt pour en juger. Il semblerait quand même que ce soit en Chine et en Inde, il y a eu quand même une limitation des livraisons en provenance de Russie. On a assisté en particulier à l'augmentation des expéditions de pétrole russe pour des destinations inconnues.
D'un dernier
mot,
on
peut imaginer que ces destinations inconnues se traduiront un peu vers la Chine et l'Inde, mais le Trésor américain a le bras extrêmement long. Et
puissant
des entreprises comme Reliance, par exemple, en Inde, ne peuvent pas quand même trop jouer avec les États-Unis sur ce dossier.
Merci beaucoup. Merci, c'est bien compris. Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine. Merci à Aloïs Guérin pour la préparation de cet entretien. Quelques mots de la météo de l'après-midi avant de refermer ce journal. Temps nuageux sur la majeure partie du pays. Quelques éclaircies aux normes. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois, la technique Paul Guigues. Prochain journal à 18h sur France Culture. Il vous sera présenté par Olivier Vogel.